Je suis très heureux d'être au milieu de vous cet après-midi et je remercie bien sûr notre frère Ernest et son épouse Evelyne de m'avoir invité. Et ce sont un peu mes paroissiens parce qu'ils sont paroissiens de la paroisse Notre-Dame de Créteil qui est la cathédrale, la nouvelle cathédrale de Créteil. Mais je ne veux pas entrer en concurrence, bien sûr, avec le curé de cette paroisse. Le père Hervé qui m'a si gentiment accueilli. Et puis aussi, je ne veux surtout pas entrer en concurrence avec le cardinal 23 et ses auxiliaires. Mais vous êtes... Puisque Ernest et Evelyne sont mes paroissiens, vous êtes un peu tous mes paroissiens. C'est-à-dire que je vous porte dans mon cœur. Et que je pense bien à vous souvent le samedi quand vous êtes réunis dans la prière ici et que je vis mon ministère d'évêque. Et je compte aussi sur votre prière. Et tous les évêques de l'Île-de-France, puisque vous venez de toute l'Île-de-France, eh bien, comptent aussi sur vos prières. Vous l'avez entendu tout à l'heure par la bouche du prophète Isaïe. Le Seigneur vous dit, je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et il le dit deux fois. Quand le Seigneur dit la même chose deux fois, c'est qu'il veut qu'on l'entende. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. On peut le dire tous ensemble. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Oui, un groupe de prières, un groupe de prières qui vit dans la grâce du renouveau, c'est un groupe où nous proclamons devant le monde que le Seigneur est le Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et Jésus, dans l'Évangile, nous le dit, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et je pense que la grâce du groupe de prière « Christ est vivant », eh bien, c'est celui qui vous a permis de mettre Dieu, de mettre Jésus au cœur de votre vie. Avant, peut-être, de fait, certains pouvaient déjà vivre la vie chrétienne. Mais peut-être que aussi dans leur vie, il y avait d'autres préoccupations. Peut-être même certains vivaient des dépendances. Et ici, Dieu a fait son œuvre. Et la grâce du groupe de prière, c'est d'avoir, vous avoir aidé à mettre Dieu, à mettre Jésus au cœur, au centre de votre vie. Est-ce que c'est vrai?
Amen.
Donc, oui, continuez à mettre Dieu, à mettre le Seigneur au cœur de votre vie. Alors on vous dit aujourd'hui dans notre société que la foi, c'est une conviction intime et personnelle. C'est vrai, mais un chrétien est invité à vivre sa foi au cœur du monde, au cœur de la société. Et bien sûr, la laïcité, c'est vivre sa foi dans le respect des autres convictions. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas affirmer sa foi. Parce que ça serait un peu étonnant qu'on peut parler de toutes choses, sur tous les sujets, et que nous, chrétiens, nous serions rendus silencieux ou muets. Non. Mettez au cœur de votre vie le Seigneur, mettez au cœur de votre vie notre Dieu, ça se verra. Quand quelqu'un vit sa voix, il rayonne. Quand quelqu'un met Dieu au cœur de sa vie, il fait des choix que d'autres ne font pas. Et si vous êtes fidèle à cet attachement premier au Seigneur, immanquablement, un jour ou l'autre, vous aurez cette question. Comme une femme infirmière dans un hôpital de votre culture m'a dit un jour, la question qui lui a été posée, « Mais pourquoi es-tu si joyeuse ? Qu'est-ce qui fait que dans le service, tu arrives le matin, tu es gaie, tu es joyeuse, alors que nous, nous sommes parfois préoccupés, tristes ?» Elle a répondu, « J'ai un trésor dans ma vie. » Ah, les autres. Et mon trésor, c'est Jésus. Oui, eh bien, je vous invite à continuer à mettre Dieu, à mettre Jésus au cœur de votre vie. C'est le plus beau témoignage que vous pouvez rendre dans notre société d'aujourd'hui. Il se trouve que cet été, parce que j'avais reçu ce cadeau pour mes 70 ans, vous voyez, je ne suis plus tout jeune, eh bien, je suis allé en Chine. Et là-bas, j'ai rencontré les évêques, notamment l'évêque de Xi'an. Il me partageait que dans sa cathédrale, chaque année, il accueillait 200 étudiants qui demandaient le baptême. Eh bien oui, il me disait, les jeunes chinois cherchent Dieu. Et je suis sûr que dans tout le grand Paris dont on parle aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, de familles, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui le cherchent. Et vous voyez que Dieu, on l'a entendu dans la première lecture, il a choisi pour délivrer son peuple, pour que son peuple puisse retourner à Jérusalem, il a choisi quelqu'un qui ne le connaissait pas. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Et le Seigneur lui dit, à cause de mon peuple, je t'ai appelé par ton nom. Mais cette parole, elle n'est pas une parole du passé. Peut-être certains parmi vous, quand vous êtes venus pour la première fois au groupe Christ est vivant, vous ne connaissiez pas le Seigneur. Ou il n'avait pas beaucoup de place dans votre vie. Et là, vous avez entendu le Seigneur vous parler. À chacun personnellement, je t'ai appelé par ton nom. Oui, vous avez été appelés chacun personnellement à participer à ce groupe de prière qui vous a remis en lien avec votre paroisse, avec l'Église. Et vous pouvez rendre grâce. Et je vous invite à entendre chacun pour vous-même à nouveau aujourd'hui cet appel qui date depuis toute éternité. Je t'ai aimé depuis toute éternité. Et chacun de nous a été appelé par son nom lors de son baptême. Oui, entendez à nouveau cette parole du Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Et pendant quelques instants, nous laissons retentir cette parole. Et nous y adhérons. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Mais si le Seigneur nous a appelés chacun par notre nom, c'est comme pour Cyrus, c'est pour une mission. C'est pour témoigner dans le monde qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et comme le dit si bien le pape François, du fait de notre baptême, du fait que Jésus nous a appelés chacun par notre nom, nous sommes tous des disciples missionnaires. Le Seigneur a envoyé Cyrus pour délivrer son peuple. Le Seigneur, notre Père, a envoyé Jésus dans le monde pour le sauver. Et nous sommes tous envoyé par Jésus, par le Père, pour être des missionnaires, pour annoncer l'Évangile. Et vous avez entendu la première lettre aussi de Paul aux Thessaloniciens. Il s'adresse à cette communauté chrétienne qu'il a fondée. Et nous pensons que cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est sans doute la première lettre qu'il a écrite aux communautés chrétiennes, vers l'an 50, à peine 20 ans après la mort de Jésus et sa résurrection. Nous touchons là certainement un des premiers écrits du Nouveau Testament. Et vous voyez que quand il écrit une lettre, Paul, il n'est pas tout seul. Il est entouré de ses collaborateurs, Sylvain et Timothée. Et il s'adresse à cette église qu'il a fondée et qu'il aime, qu'il porte dans son cœur. Et ses premiers mots, à vous, la grâce et la paix. La paix, c'est le plus grand bien que le Seigneur désire pour nous, que nous soyons en paix, en relation juste avec lui, que nous soyons en paix avec nos frères et que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Et moi, comme évêque, je suis un successeur des apôtres. envoyé aussi par le Christ, et comme à l'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens, eh bien, avec le Père Hervé, avec tous les évêques de France, de l'île de France, je vous dis aujourd'hui, à vous, grâce et paix. Et quand Paul s'adresse à ces chrétiens de Thessalonique et dans les autres lettres, il commence toujours par rendre grâce. Nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire de vous dans nos prières. Dans la Bible, faire mémoire, c'est rendre présent. Donc l'apôtre Paul dit à ses chrétiens qu'il rend grâce à Dieu avec Paul, avec Sylvain et Timothée. Ils priaient sans doute ensemble. Et il dit, nous rendons grâce à Dieu. Parce que, en faisant mémoire de vous, en vous rendant présent dans chacune de nos prières, et sans cesse nous nous souvenons, c'est la même chose. Eh bien, moi, je vous ai dit, un peu en vous taquinant, que vous étiez mes paroissiens, eh bien, comme chaque prêtre qui est fidèle à la prière de l'office, comme chaque évêque, eh bien, je reprends à votre sujet ces paroles de l'apôtre Paul. Nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Et quel est l'objet de l'action de grâce de Paul et de ses collaborateurs? Nous rendrons grâce parce que votre foi est active. Votre foi est vivante. Nous rendrons grâce au Seigneur parce que votre charité se donne de la peine. Parce que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour vous aujourd'hui, avec le Père Hervé, je reprends cette même action de grâce de l'apôtre Paul. Oui, dans cette Eucharistie que je célèbre avec vous, qu'on célèbre avec le Père Hervé, oui, nous rendons grâce parce que votre foi est vivante, votre foi est active. Votre charité envers ceux qui sont dans le besoin se donne de la peine parce que vous vivez entre vous l'amour fraternel, la charité fraternelle, qui est le premier signe de l'annonce de Dieu qui est vivant et du Christ. Et ce n'est pas toujours facile de persévérer dans l'amour fraternel. Oui, nous rendons grâce parce que votre charité se donne de la peine et qu'au milieu des épreuves que vous traversez, des difficultés de la vie, certains peut-être du chômage, d'autres de la maladie, d'autres difficultés, eh bien, votre espérance tient bon. Votre espérance en Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père qui nous aime. Oui, merci pour le témoignage de votre foi, de votre charité et de votre espérance. Et je vous encourage à vivre votre foi, votre charité, votre espérance. Et vous avez entendu la suite. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu. Voyez comment Paul nomme les chrétiens de Thessalonique, nous le savons, frères bien-aimés de Dieu. Et je vous dis, oui, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. Vous avez été appelés par votre nom, mais vous avez été choisis pour, avec l'apôtre Paul, pour avec tous les apôtres d'aujourd'hui, tous les prêtres, tous les chrétiens, tous les baptisés, vous avez été choisis pour annoncer l'Évangile, témoigner de votre foi. Notre frère Ernest a fait tout à l'heure allusion à ma lettre pastorale, où j'invite les chrétiens du diocèse à mettre au cœur de leur vie la parole de Dieu et à oser faire chez eux des maisons d'évangile. Est-ce que vous pouvez le faire après ce que vous vivez dans le groupe de prière, mais à prier en famille, à la maison? L'évangile n'est pas réservé dans ce lieu où vous venez prier. L'évangile peut imprégner votre vie familiale, votre vie de relation dans le voisinage, votre vie professionnelle. Mais pour pouvoir porter le regard d'amour de Dieu sur tous ceux qui nous entourent, nous avons besoin d'abord d'accueillir le regard d'amour de Dieu sur nous, pas seulement à l'église, mais aussi à la maison. Alors plusieurs, mais mon Seigneur, vous n'y pensez pas. Comment inviter quelqu'un à venir chez nous? Je dis, vous invitez bien des gens à venir prendre l'apéritif, vous invitez bien les gens à, vous invitez bien vos amis à prendre un repas. Mais pourquoi vous ne parleriez pas de votre foi? Et je vous dis ce que m'a dit une catéchiste. Elle avait des amis, des invités 3-4 fois dans l'année. Mais ils faisaient des jeux de société avec les enfants. Puis un jour, elle a senti que l'Esprit Saint la poussait. Et elle dit, ben je vais... On nous invite à vivre une maison d'évangile. Elle a osé proposer aux enfants la parole de Dieu. Les enfants sont très bien rentrés dans les deux familles. Et il y a eu un moment très beau. Et les amis, en repartant, ont dit à cette catéchiste, ça faisait des années qu'on attendait que vous nous parliez de votre foi. Pourquoi se taire sur ce qui est notre trésor, sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui illumine notre vie, la présence du Seigneur dans notre cœur, la présence du Seigneur dans notre famille, la présence du Seigneur dans notre paroisse, la présence du Seigneur dans votre groupe, Christ est vivant. Oui, je vous invite à oser témoigner du Seigneur, parce que votre foi est belle, parce que votre charité se met en peine, parce que votre espérance tient bon. Et c'est ce que vous pouvez donner de meilleur au monde. Rendre au Seigneur le trésor que vous avez reçu de lui pour le partager avec d'autres. Quand nous partageons notre foi, elle grandit. Si nous ne partageons pas notre foi, elle diminue. Alors vous êtes d'accord? Vous oserez inviter des voisins, prier avec vous, partager l'évangile avec vous? Il y a tant d'hommes et de femmes qui attendent. Et pensez bien que je ne vous fais pas un reproche. Parce que si je vous demande ça, moi je m'engage à prier pour vous, comme l'apôtre Paul. Et quand on parle du Seigneur, on n'est jamais seul. Il nous dit toujours, je suis avec toi, ne crains pas.